Alors, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, dans la Bible, Jésus et les apôtres prennent souvent les enfants comme modèle et les comparent aux chrétiens. Par exemple, est-ce que vous avez une citation qui revient régulièrement, qui vous vient en tête ? Oui, c'est... Donc, d'être comme des enfants pour entrer dans le royaume de Dieu. Laissez à venir à moi les petits-enfants. Il y a des enfants dans les sermons. Les enfants. Oui, c'est ça. Donc, on voit qu'il y a enfant de Dieu, enfant de lumière, enfant du royaume. Mais tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Autrefois, vous étiez dans les ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Tellement d'exemples, il y en aurait sans doute encore d'autres. Et voilà, c'est quelque chose de fort, quelque chose qui passe les évangiles, les épîtres. On est comparé à des enfants. Et dans le texte de ce matin, justement, c'est ce qui a été cité en premier. Voilà. C'est cette question d'être des enfants, c'est la clé. À cette question, comment entrer dans le royaume de Dieu ? Comme des enfants. Ressembler aux enfants pour entrer dans le royaume de Dieu. Et dans le texte qu'on va voir ensemble, c'est être des enfants pour entrer dans le royaume de Dieu. Et puis cette hospitalité du royaume des cieux, comment la vivre. Et l'exemple qui est donné, c'est justement les enfants. Et je vous invite à ouvrir ensemble la Bible dans Matthieu 18, et on lira les premiers versets de ce chapitre. Matthieu 18. Matthieu 18, verset 1. Je commence la lecture. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent : Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? Jésus appela un petit enfant et le plaça au milieu d'eux et dit : Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi celui qui se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille en mon nom un petit enfant comme celui-ci m'accueille moi-même. Mais si quelqu'un fait trébucher un seul de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Malheur au monde à cause des pièges. Les pièges sont inévitables, mais malheur à l'homme qui en est responsable. Si ta main ou ton pied te pousse à mal agir, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir deux pieds et deux mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie avec un seul œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans l'enfer de feu. Faites bien attention de ne pas mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans le ciel sont continuellement en présence de mon Père céleste. En effet, le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Jésus les cache, hein. Heureusement, il en dit. Ouais. Il est question d'entrer dans le royaume des cieux. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent : Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? Jésus prend un petit enfant, comme nous on vient de le faire, on le présente, il place au milieu d'eux Et je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Qui est le plus grand parmi nous? C'est cette question que les disciples avaient entre eux. Et quand Jésus leur répond, il faut s'imaginer que c'est les 12 apôtres qu'il a en face d'eux. Il faut se dire que 6 jours avant, si vous feuilletez votre Bible et que vous allez dans le chapitre 17, quelques versets au-dessus, Jésus prend Pierre, Jacques, Jean, et il monte sur une montagne et Jésus il est transfiguré. Il est dans la gloire éternelle et avec lui, il y a Élie et Moïse. Et là, tu fais, ah ouais, moi, je vois ça. Je dois être comme ça. Il y a les impôts à payer. Et Jésus dit à Pierre, va pêcher et tu trouveras une pièce pour payer l'impôt pour toi et pour moi. Tu fais, ah ouais, quand même, moi j'arrive à faire ça, j'arrive à vivre ça, je suis un chanceux. Bon, si vous avez la taxe foncière à payer, vous pouvez essayer, mais je ne garantis pas. Rappelez-vous, Pierre a marché sur l'eau. Et pourtant, on peut se sentir fort, peut-être meilleur que les autres autour. Toi, tu n'as pas marché sur l'eau. Et là, on se dit que même parmi les apôtres, il y avait l'orgueil. C'est une question qui est vraiment récurrente parmi les disciples. Vous pouvez ouvrir n'importe quel évangile, ça revient à des moments improbables. Jésus qui est en train de dire « Je vais mourir dans d'atroces souffrances » et t'entends à côté « En fait, c'est moi le plus grand, non ?» C'est ça le scénario. Et on se dit, mais waouh, est-ce qu'on est différent d'eux? Est-ce qu'on est meilleur que les apôtres? Et à cette question, qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus répond à une autre question. Une question de vie et de mort. Une question d'être dans la maison du Père ou dans le feu éternel. Jésus prend un enfant, le met au milieu d'eux et leur dit, c'est pourquoi celui qui se rendra humble comme ce petit enfant, comme notre petit Samuel, sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et c'est là qu'on découvre qu'on a beau vivre des choses extraordinaires, connaître beaucoup de choses, de pouvoir faire des choux avec Jésus, de pouvoir faire des randonnées avec Jésus, notre plus grand frein pour entrer dans le royaume des cieux et y vivre, ça va être... Et l'humilité pour entrer dans le royaume des cieux, ça va être de reconnaître que tout vient de Dieu. On l'a chanté dans les chants aujourd'hui. C'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui forme même les corps dans le ventre des mères. Et ça nous rappelle qu'on ne peut rien mériter par nos propres forces, rien mériter par des sacrifices ou par nos richesses. Autonome, mais... Le soleil, hein. Et c'est vrai que les enfants, est-ce qu'ils sont vraiment différents? Est-ce qu'ils sont vraiment si humbles que ça? Moi, je vois régulièrement les enfants dire « Ouais, mon papa, il est plus fort » ou « Attention, moi, je suis un peu Superman. » Et vous savez, la différence qu'il y a avec les enfants, c'est qu'ils ont des illusions, ils ont des mensonges. Mais en fait, dans leur quotidien, les réalités reviennent rapidement à eux. Quand ils sont à l'école, il faut rentrer à la maison. S'il n'y a pas le papa ou la maman qui vient, ils restent là-bas. S'il y a papa et maman qui ne font pas le repas, ils peuvent attendre un moment. Et qu'est-ce qu'il en est pour les adultes? C'est juste qu'on a parfois cette illusion qui perdure plus longtemps que les enfants. Nous avons tous besoin d'une conversion à Christ authentique. Ça veut dire, la repentance, ça veut dire qu'on reconnaît que par soi-même, on n'arrive pas à répondre aux exigences de Dieu. Que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Que nous avons besoin d'abandonner ce qui ne plaît pas à Dieu pour changer de direction et aller vers ce qui plaît à Dieu. Et nous avons besoin de le confesser, confesser nos péchés, ce qui ne va pas dans notre vie. Nous avons besoin d'avoir cette simplicité de dire « Jésus, j'ai besoin de toi, j'ai besoin d'être sauvé par toi, j'ai besoin de vivre pour toi. » Et ça, c'est l'humilité. Pour ça, rentrer dans l'eau du baptême, c'est un signe d'humilité. Chercher à ressembler à Jésus, chercher à obéir à Jésus. Et là, il est question aussi d'accueillir comme Jésus, d'être dépendant de Dieu. Même Jésus a dit qu'il ne fait rien sans que Dieu soit d'accord, Dieu le Père. Et nous avons tous besoin d'une nouvelle naissance. Nous avons tous besoin du Saint-Esprit. En Jean 3, au verset 3, Jésus dit cela. « en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Au verset 5, « en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle là où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. » En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Pour entrer dans le royaume de Dieu, l'étape de la repentance, l'étape de l'humilité, c'est indispensable. Ce n'est pas un sentiment sur le moment, parce qu'en fait, on est au fond du gouffre et on a une difficulté en face de nous. Rentrer dans le royaume de Dieu, ça veut dire « je veux chaque jour dépendre de Dieu ». Ce n'est pas quelque chose d'éphémère, c'est un choix, une décision. Pourquoi aujourd'hui il y a le péché dans le monde ? C'est parce qu'Adam et Ève ont dit « nous on veut être comme Dieu, on n'a pas besoin de Dieu ». Si aujourd'hui peut-être tu luttes avec Dieu et que tu n'acceptes pas que tu as besoin de Jésus ou de lui obéir, c'est peut-être tout simplement que tu veux être Dieu à la place de Dieu. Est-ce que tu peux être Dieu à la place de Dieu ? Peut-être que tu es chrétien depuis longtemps et tu sens que tu es comme sec à l'intérieur. C'est une sorte de sécheresse spirituelle. Peut-être que tu es agité par moments, tu ne sais plus vers où aller. Mais peut-être on a besoin de revenir aux fondamentaux, revenir à l'Évangile, revenir à ce jour où tu t'es dit « je ne peux rien par moi, par moi-même, et j'ai besoin de Jésus ». J'ai besoin de l'évangile de Jésus-Christ qui sauve. Jésus-Christ qui est mort et ressuscité et qui donne une vie nouvelle. Nous avons besoin de pouvoir l'expérimenter jour après jour. Et peut-être c'est l'occasion aujourd'hui de pouvoir peut-être refaire ce pas, de dire, voilà, je me consacre. Comme on a consacré les enfants, là, je me consacre, je veux vivre pour toi. Peut-être c'est l'occasion aussi dans notre témoignage, dans ma famille. Est-ce que, dans ma façon de vivre, je témoigne de cette réalité d'humilité auprès de mes enfants, de mon besoin quotidien de Dieu pour chaque aspect de ma vie ? Et Jésus continue et, au verset 4 et la suite, et il dit « Celui qui accueille en mon nom un petit enfant comme celui-ci m'accueille moi-même. » Et là, Jésus donne un principe de fonctionnement royaume de Dieu, donc c'est le pays de Dieu, c'est avec ses lois à lui. Et il rappelle que chacun a besoin d'être un enfant de Dieu. Chacun doit être accueilli tel qu'il est et chacun est précieux. Alors pas précieux comme on peut l'entendre par rapport à peut-être, voilà, t'es précieux, t'es précieuse parce que t'es beau, t'es belle. Non, non. Tu es précieux pour ce que Jésus a accompli. Jésus a donné sa vie pour toi. Jésus a souffert pour toi. C'est ça qui te donne ta valeur auprès de Dieu. Et ça implique une réelle solidarité et unité qui vient du Saint-Esprit. Parce que vous savez, le christianisme, c'est ni un club, ni un système religieux. Le christianisme biblique, tel qu'il est décrit dans la Bible, c'est une famille des enfants de Dieu qui vivent selon les lois du royaume. Et ce qui revient souvent comme loi du royaume, c'est la famille. Mais la famille selon le principe de Dieu. Ce n'est pas la famille où chacun est le chef, c'est Christ le chef. Et chacun est solidaire et s'encourage les uns les autres. Et c'est là où c'est intéressant de se dire qu'à chaque fois qu'on fait mal à un enfant de Dieu, Christ lui-même, on lui fait mal. Vous savez, Saul, c'était quelqu'un qui avait un grand zèle religieux au point d'être meurtrier pour ses traditions, entre guillemets, religieuses. Parcourir des villes pour séparer des familles, mettre en prison, semer la terreur pour que tout le monde ait peur. Et à un moment, Jésus arrête net Saul. Il tombe même de son cheval ou de son âne, je ne sais plus. Cheval. Il tombe. Et Jésus, qu'est-ce qu'il lui dit ? Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Quand quelqu'un te fait mal, il fait mal à Jésus. Jésus t'aime tellement qu'il souffre avec toi. Et c'est bon de savoir que Jésus est avec nous, même quand il y a des situations qui nous troublent, des situations où on nous fait mal. Et Jésus parle du verbe « recevoir ». La signification de ce verbe « recevoir », c'est comme « recevoir à la maison ». Comment est-ce que vous recevez quelqu'un à la maison ?
En ayant fait le ménage.
En ayant fait le ménage ? On lui dit un bon repas. On lui dit fais comme chez toi. Ça, c'est à vos risques et périls. Hein. Mais en tout cas, on est bienveillant, on est aux petits soins, on essaie de mettre la personne à l'aise, on essaie d'être courtois, montrer de la tendresse. Et comprenez, et je l'ai vraiment redécouvert en préparant cette prédication, l'hospitalité, c'est une valeur fondamentale du royaume. C'est quelque chose qui est répété à plusieurs moments dans la Bible, mais en fait, on y voit des bénéfices à l'hospitalité, comme si vous accueillez des personnes, c'est comme accueillir des anges sans le savoir. C'est même un des prérequis pour accepter l'aide sociale aux veuves dans l'Église. J'étais très surpris en revisitant ça dans 1 Timothée 5:10. Pour être veuve dans l'Église et avoir le soutien de l'Église, il faut avoir été hospitalière. Comme quoi, mais aussi un ordre à l'impératif, exercer l'hospitalité. Exercer l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure, dans 1 Pierre. Et ça nous interroge. Comment est-ce que moi, j'accueille ? Est-ce que j'accueille tout court ? Pourquoi ? C'est pour ça, parfois, on a des idées très spirituelles des choses, mais est-ce que dans mon quotidien, dans les choses simples, est-ce que je mets en pratique la parole de Dieu ? Comment j'accueille les uns et les autres ? Il y a des bénéfices spirituels qu'on n'ose même pas imaginer derrière tout ça. Et pourtant, c'est à la portée de chacun. Et Jésus prend ces exemples-là parce que Jésus, c'est l'exemple même de l'accueil. Il accepte des personnes autour de sa table qui sont des traîtres à la nation, qui volent l'argent même des gens. Des personnes en situation de prostitution, des riches, des pauvres, des lépreux que personne n'osait toucher, croyants ou non-croyants. Jésus les accueille tous et il chemine avec eux. Pourquoi ? Parce qu'il les aime et il sait qu'il va donner sa vie pour chacun d'eux. Peu importe ce qu'il est en train de vivre, ce qu'il a fait, Jésus donne sa vie, il va souffrir pour chacun d'eux. Ça nous interroge, nous, notre accueil, notre respect. Nous pouvons accueillir et respecter en nous rappelant que chaque personne a été choisi par Dieu pour être digne de la mort et de la vie de Jésus-Christ. Et après, Jésus continue avec des phrases qui étaient assez dures, qu'on a lues avant. « Si quelqu'un fait trébucher un seul de ses petits, il vaudrait mieux qu'on le suspende à son cou une meule et qu'on le jette au fond de la mer. » Waouh ! Les pièges sont inévitables, mais malheur à l'homme qui en est responsable. Et Jésus là, dénonce vraiment la gravité de faire tomber, trébucher un enfant de Dieu, que ce soit un petit enfant ou un plus grand enfant de Dieu. Comment est-ce qu'on fait trébucher quelqu'un ? Ben, par son propre péché, par des faux enseignements, par des mauvaises influences, par le jugement, des paroles mauvaises. Et Jésus fait vraiment des remarques très surprenantes et sévères. Alors, peut-être que ce n'est pas l'image que vous aviez de Jésus en arrivant. Jésus nous met vraiment en garde sur la gravité des chutes et des scandales, des croche-pieds dans le cheminement avec Dieu. Jésus indique qu'il y a des conséquences graves et des répercussions, à la fois pour celui qui en est victime, mais aussi pour... C'est pour ça qu'il y a deux remarques à ça. Nous sommes responsables de nos actes et de nos paroles. Il n'y a pas de système pour s'en dédouaner. Et Jésus déclare aussi que les pièges seront inévitables, donc il ne faut pas s'étonner que ça arrive, y compris même dans l'Église. Et Jésus nous donne par contre quand même un peu des solutions pour essayer d'éviter qu'on fasse trébucher quelqu'un. Verset 8, « Si ta main ou ton pied te pousse à mal agir, coupe-les et jette-les loin de toi. Si ton œil te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi. » C'est peut-être un peu violent. Hein. Vous gardez tous vos yeux, vos œils et vos bras. Je vais vous proposer des variantes. Et Jésus montre juste que c'est horrible, que c'est douloureux et que c'est une perte. Et peut-être Jésus, là, finalement, il est en train de nous faire prévention routière, il est en train de te dire « N'envoie pas de SMS au volant, là. » Peut-être, quand tu veux dire quelque chose qui n'est pas bon, prends des chamallows, tu sais, et tu marches comme ça. Ça va te laisser le temps d'y réfléchir si ça valait vraiment la peine de le dire. Si tu veux envoyer un mail incendiaire, un SMS, un WhatsApp ou autre, mets tes mains dans la vaisselle et lave la vaisselle. Ça, c'est un peu sur le côté éphémère. Parfois, on a besoin de laisser redescendre la soupape. Pour ceux qui veulent faire la vaisselle, il y en aura plein tout à l'heure. Mais la question, c'est dans mes habitudes, dans mes attitudes, dans mon fonctionnement, qu'est-ce que je peux abandonner pour ne pas faire trébucher quelqu'un ou chuter moi-même? C'est vraiment une réflexion sur le quotidien. Quelles sont les fréquentations que je peux abandonner? Quelles sont des mauvaises habitudes? Quel est cet orgueil que je peux abandonner? Et Jésus continue en disant « Faites bien attention de ne pas mépriser un seul de ces petits. » Et je pense que ça va vraiment dans tout ce sens de l'exemple de Jésus lui-même qui a tout abandonné pour venir nous rejoindre dans la condition humaine et qui accepte la mort la plus horrible mais aussi la plus humiliante. C'était un signe de malédiction d'être accroché à la croix. Si Jésus a fait ça pour toi et pour moi, ne me demande pas de faire exactement la même chose, je te rassure. Mais qu'est-ce que je peux faire pour prendre l'exemple de Jésus? Parce que Jésus, il est glorieux. Et après avoir fait ça, il est maintenant dans le royaume de Dieu. Il siège sur son trône et sa gloire est étincelante. Et je nous encourage à entrer dans le royaume de Dieu. C'est le seul lieu où tu peux trouver la vie, la joie, la justice. Le seul refuge contre les souffrances éternelles que nous présente Jésus. Et Jésus t'accueille tel que tu es. Tu peux y rentrer. Mais la seule chose que tu as besoin de faire, c'est finalement rentrer avec cette humilité de dire « J'ai besoin de Jésus. Je suis pécheur. Je veux que Jésus porte mes fardeaux. » Mon péché. Jésus a subi la punition qui était la mienne. Je veux marcher maintenant en nouveauté de vie. Comprends que la repentance, l'humilité, ce n'est pas facultatif. Et un des signes qui indique que nous sommes citoyens de ce royaume, c'est cette dépendance à Dieu. Une humilité sincère qu'on n'a pas revendiquée. La volonté de ne pas créer de scandale. L'entrée du royaume de Dieu aux autres. Et quand c'est nécessaire aussi, exhorter, avertir, pour éviter que des personnes vivent dans le péché. Mais ça ne veut pas dire dénoncer ou juger. Alors il y a des moments où on chutera, des moments où on fera trébucher, des moments où on sera méprisant, des moments où on fera des scandales, volontaire ou involontaire. Et dans la suite du chapitre, Jésus donne tout un ensemble de bonnes pratiques pour savoir comment gérer ça. Il y a cette question de demande de pardon, personnel, si c'est personnel, public, si c'est public, mais aussi d'assumer les conséquences et pas juste dire « Oh, c'est bon, on passe à autre chose. » Non. C'est d'assumer les conséquences et de demander à Dieu la force, la sagesse, l'intelligence pour restaurer ce qui peut être restauré avec son aide. Et je vous invite à prier. Merci Père pour ces enseignements que tu nous donnes, qui se basent sur ce que nous pouvons observer de nos enfants. Je te remercie pour eux que tu as placés à nos côtés et je crois qu'ils ont vraiment une vertu pédagogique pour nous, Seigneur, pour nous rappeler que nous devons être humbles comme eux, que nous devons dépendre de toi, eux. Et je te prie, s'il te plaît, que dans ce temps, peut-être on est en train de prier, de réfléchir à ce que tu nous as dit, que tu puisses nous éclairer, pour que nous puissions, peut-être on puisse vraiment mieux assimiler les règles de ton royaume, de manière concrète, qu'on vive pas dans nos illusions, Seigneur, qu'on puisse vraiment dépendre de toi. Je te prie, s'il te plaît, que là aussi tu nous aides à mettre et à compter sur ton pardon et sur les fruits de la repentance, sur les fruits de ta restauration, Seigneur. Je te remercie parce que tu peux même amener à la vie ce qui est mort. Et je te prie que peut-être ce qui est blessé dans nos cœurs, peut-être ce qui est mort, Seigneur, que tu puisses le ramener à la vie, que tu puisses guérir, que tu puisses donner ton soin. Et je te prie, s'il te plaît, que pour chacun d'entre nous, nous puissions dire réellement, tu es mon sauveur, tu es mon sauveur. Je veux vivre selon les règles de ton royaume. Je veux être comme cet enfant qui dépend de toi et qui reçoit ce que tu donnes, à savoir l'accueil dans le royaume de Dieu, la maison de Dieu. Je te prie de la force et le courage aussi, s'il y a besoin de pardonner, de recevoir le pardon, de le donner, d'assumer peut-être les conséquences de nos erreurs, te les confier. Et aller de l'avant avec toi, Seigneur mon Dieu. Je te prie ainsi dans le nom de Jésus. Amen.